Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'accessibilité en informatique, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Jouons collectif de Vincent Calame sur le thème Mon code n'est pas propre, et aussi la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet sur le thème Logiciel libre et autonomie. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org, A-P-R-I-L.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours en nous posant toutes questions. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Nous diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou une podcast. À la réalisation de l'émission ce jour, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Isa.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Jouons collectif de Vincent Calame, aujourd'hui sur le thème « Mon code n'est pas propre ». Vincent est avec nous au studio. Bonjour Vincent, bonjour. À toi la parole.
Bonjour Isabella. Alors, donc cette chronique est un peu le prolongement de l'échange que j'ai eu avec Frédéric à la fin de ma chronique précédente. Parce que lors de cet échange, nous avions évoqué le travail d'importation des anciennes émissions du site de l'April vers le nouveau site de Libre à vous. Travail pour lequel j'avais inscrit un script, donc un script, c'est-à-dire quelques lignes de code informatique. Et quelques jours après, il m'a demandé, Frédéric Couchet, de lui transmettre ce script pour faire de l'importation des toutes dernières émissions de septembre. Et je lui ai demandé si c'était pour un usage ponctuel, en attendant le basculement définitif vers le nouveau site, ou si c'était pour un usage pérenne. Alors, comme nous étions dans le premier cas, un usage temporaire, je lui ai fait une remarque, je cite, « Ça m'arrange, il faudrait que le programme soit un peu plus propre avant de le transmettre. » Et donc, c'est alors qu'il m'a posé la question à l'origine de ces chroniques, « Plus propre, dans quel sens ?»
Si on a du code qui n'est pas propre, cela voudrait dire qu'on a du code sale ?
Oui, effectivement, l'opposition propre-sale est la première qui vient à l'esprit. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de code sale comme il y a de l'argent sale. En réfléchissant aux images que m'évoquait cette expression « pas propre », que j'utilise souvent, je me suis aperçu que je la liais au monde de la petite enfance. En effet, on dit d'un bambin qui porte encore des couches qu'il n'est pas encore propre. On ne dit pas qu'il est sale. Hein. C'est un stade normal dans notre croissance, nous sommes tous passés par là. En revanche, un enfant doit être propre pour rentrer à l'école maternelle. La fin des couches est une étape importante dans la vie d'un enfant, et aussi dans celle des parents d'ailleurs. Donc, si on me permet de comparer l'évolution d'un code informatique à celui d'un enfant, ne pas être propre est un état normal pour un code qui vient de commencer à être rédigé. Donc, un peu l'équivalent à l'entrée à l'école maternelle pour du code, c'est sa diffusion à d'autres personnes que celles qui l'a créé. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit propre à ce moment-là. C'est évidemment encore plus vrai pour du logiciel libre dont la vocation est d'avoir la diffusion la plus large possible.
Bah, qu'est-ce qu'est un code propre ?
Alors, je vais prendre un exemple concret pour illustrer cette idée, en espérant que ça passe bien à la radio. Alors, pratiquement tous les codes informatiques ont besoin à un moment ou à un autre de manipuler des fichiers présents sur le disque dur de l'ordinateur, soit pour les lire ou les écrire. Pour accéder à ce fichier, le code informatique doit avoir l'information de son chemin complet. Alors, chemin complet, c'est-à-dire c'est sa position dans l'arborescence des dossiers de l'ordinateur. Il faut pouvoir dire en langage informatique, ce qu'on dirait en langage humain, « Lis le fichier bidule qui se trouve dans le dossier truc, qui se trouve dans le dossier mes documents de mon compte utilisateur. » Donc, la façon la plus rapide et la plus simple est d'indiquer ce chemin complet tel quel à un endroit du code. C'est ce qu'on appelle « coder en dur ». Alors, on voit le problème si le code est transmis à une autre personne. Pour que ça marche sur son poste, il faut que le fichier soit exactement au même emplacement. Même dossier, même arborescence. Ce qui, dans le cas de mon script, était compliqué, puisque dans le chemin complet, comprend mon nom à moi d'utilisateur. Alors bien sûr, Frédéric Couchet n'aurait eu qu'à ouvrir mon fichier de script et modifier ce chemin en dur directement pour que ça fonctionne. La manipulation n'était pas énorme, mais elle restait tout de même source d'erreur. Puis sans compter qu'en cas de mise à jour du script, si par exemple lui envoie une nouvelle version, les modifications faites en dur sont perdues et doivent être refaites.
Bah, un code pas propre est donc un code difficile à transmettre ?
Oui, voilà. C'est un code qui fonctionne sur une machine particulière, dans un environnement particulier, mais qui n'a pas été testé dans d'autres contextes. Cela de pair avec le fait qu'un code pas propre, bon, je mets toujours entre guillemets, hein, je précise, répond souvent à un besoin spécifique mais compliqué à faire évoluer pour répondre à une nouvelle demande. Pour filer la métaphore avec l'enfance, on pourrait parler des maladies infantiles du code. Ce ne sont pas des maladies graves, tout code doit en passer par là dans la construction de son système immunitaire. D'ailleurs, prétendre faire un code propre, d'entrée de jeu, est souvent une perte de temps. Car si le script n'est pas destiné à durer, à quoi bon dépenser de l'énergie et avoir tout bien carré dès le départ ? Trop de rigueur initiale peut brider la créativité et la souplesse. Et puis ça veut dire aussi qu'on sait dès le départ où on va arriver, ce qui est rarement le cas en informatique, y compris pour des petits scripts. Donc voilà, la prochaine fois qu'un codeur vous parle d'un code pas propre, imaginez-le lui changer les couches ou lui apprendre à aller sur le pot, vous serez peut-être pas si loin de ça de la réalité.
Merci beaucoup Vincent pour cette chronique. Une petite expérience personnelle, parfois dans un langage encore plus familier, j'ai entendu dire crade au lieu de pas propre. Mais voilà, la métaphore des enfants et des couches était vraiment très claire, très pertinente. Donc merci beaucoup et je te dis à la prochaine chronique Jouons Collectif.
Oui, à la prochaine Isabella.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Pour cette première pause musicale, nous allons écouter un morceau instrumental de Mel P, un groupe de Le Mans. Le morceau démarre avec un style plutôt funky. Le refrain vire vers un rock qui rappelle la musique grunge des années 90 et ça se termine par une partie clairement métal. Donc plusieurs styles dans le même morceau, c'est assez rigolo. Nous allons donc écouter Fabulous, néoplastique, chaotique par Mel P et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Fabulous, néoplastique, chaotique, par Melpé, sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence. C'est notre ami Benji qui nous avait suggéré le groupe Melpé pour une pause musicale, merci à lui. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous aussi nous proposer des musiques. La seule condition, c'est qu'elles soient sous licence libre, comme par exemple la Creative Commons partage dans les mêmes conditions dont je viens de vous parler, la Creative Commons attribution ou encore la licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accessibilité en informatique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve après. Bonjour, je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et nous enregistrons un sujet à l'avance, c'était la condition pour faire intervenir nos personnes invitées. Nous allons parler d'accessibilité informatique et web et nous allons le faire avec Bernadette de l'association ASIA au téléphone. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Et Harmonie Altinier de la société Quénard qui intervient elle aussi au téléphone. Bonjour Harmonie.
Bonjour Isabelle.
Notre échange sera normalement diffusé en direct le mardi 5 octobre 2021. Nous allons commencer notre échange. Comme je vous ai annoncé, mes deux invités interviennent à distance. Donc Bernadette, Harmonie, si vous souhaitez intervenir à un moment, mais que vous n'avez pas la parole, n'hésitez pas à m'appeler Isa pour que je vous donne la parole. Pour commencer, je vous invite à faire une courte présentation en précisant notamment votre rôle dans votre structure. Bernadette, tu veux commencer ?
Bonjour, je suis initiatrice et secrétaire générale de l'association ACIAH, ce qui veut dire accessibilité, communication, information, accompagnement du handicap.
Merci Bernadette et Harmonie.
Alors, moi je suis la fondatrice et dirigeante de COENA, c'est une société spécialisée en accessibilité numérique. Je m'appelle Harmonie Altinier.
Merci. Donc, vos organisations s'occupent toutes les deux d'accessibilité. Pourquoi vous avez décidé de vous occuper de cet enjeu, de vous investir dans ce domaine ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous anime ?
Bon, moi, nous avons décidé de nous occuper des personnes dont personne ne veut, c'est-à-dire les personnes aveugles, celles qui n'ont qu'une main, ou une maladie de Parkinson, ou peut-être une déficience mentale, ou des personnes âgées en situation de DMLA, c'est-à-dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont des personnes qui n'iront jamais dans les structures de formation et qui ont cependant besoin d'accéder au numérique.
Merci beaucoup Bernadette. Harmonie, qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'occuper de cette problématique ?
Alors moi c'est très différent, j'ai pas vraiment décidé au départ de m'investir dans l'accessibilité numérique, mais je suis moi-même handicapée, j'ai une maladie chronique qui s'appelle le syndrome Ehlers dans l'os, et j'ai eu un diagnostic très tardif, mais c'est arrivé progressivement au cours de mes études, et à un moment donné je pouvais plus utiliser, je pouvais plus marcher, j'ai passé 10 mois à lutter. Sans savoir si je remarcherais, je ne pouvais pas toujours utiliser mes mains. Et du coup, l'informatique est devenue vitale. Et c'est là que j'ai découvert aussi les problématiques d'accessibilité numérique. Tout ne marchait pas au clavier. Donc, c'est vraiment en fait mon handicap qui m'a amenée sur ce sujet-là. Donc, ce n'était pas vraiment un choix particulier au départ.
Merci. Donc, j'ai dit en introduction qu'on allait parler d'accessibilité informatique et web, mais on entend parler souvent aussi d'accessibilité numérique. Et il y a une autre expression aussi, technologie d'assistance, qui est très utilisé. Donc peut-être que je pense que ça peut être utile de donner une définition de ces termes différents pour que notre public puisse se retrouver mieux. Harmonie, puis-je te laisser expliquer les différents termes que je viens d'énoncer ?
Oui, bien sûr. Alors, accessibilité numérique, c'est le terme qui tend à englober le reste, c'est-à-dire accessibilité web, accessibilité informatique, c'est quelque chose de plus général, plus générique. Et c'est à distinguer de technologie d'assistance, même si c'est un but commun. Donc, pour faire une comparaison, une technologie d'assistance, c'est un dispositif logiciel ou matériel qui va aider une personne handicapée à compenser sa situation de handicap. On peut prendre dans le monde physique l'exemple du fauteuil roulant. Donc les personnes qui fabriquent des fauteuils roulants participent à l'accessibilité numérique, mais en fait en mettant à disposition des personnes handicapées de manière très spécialisée des outils qui sont adaptés à une situation en particulier. L'accessibilité numérique, qui est quelque chose d'assez codifié, qui est normé, il y a des définitions, même au niveau de la loi, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, si j'ai un fauteuil roulant et qu'il y a un escalier, je pourrais pas l'utiliser. Donc, nous, on est du côté accessibilité numérique, c'est-à-dire d'accompagner les gens qui fabriquent des logiciels, des sites web, des applications mobiles ou que sais-je, à faire en sorte de prendre en compte dans leur conception et dans leur façon de développer les normes et les besoins des personnes handicapées qui elles-mêmes sont dotées donc de ces technologies d'assistance pour que ça fonctionne. Donc si on continue l'analogie, c'est leur dire qu'il faut mettre une rampe, qu'il faut élargir les portes, voilà. Et donc là, dans le numérique, il y a quatre grands principes qui sont qu'il faut que l'information soit conçue et développée de manière à ce que ce soit perceptible, à la fois au niveau visuel et auditif, utilisable, évidemment à la souris, mais aussi au clavier, de façon tactile, à la voix, etc. Compréhensible dans la navigation, dans les mots utilisés, dans la façon dont on peut se repérer. Et enfin, robuste. Le quatrième principe robuste, c'est vraiment coder selon les standards, de manière à ce que ça fonctionne avec tout type de technologies actuelles et futures.
Merci d'avoir précisé ces quatre principes. D'où ils sont tirés ?
Les quatre principes sont tirés de ce qu'on appelle les WCAG, donc les Web Content Accessibility Guidelines, donc WCAG, qui est en fait le standard de référence dans le monde, qui est édité par le W3C, qui veut dire World Wide Web Consortium. Donc c'est l'organisation qui fait tout ce qui est standard sur le web. Mais c'est des standards qui ont été adoptés à la fois au niveau d'une directive européenne, donc dans les lois nationales des 27 États membres, mais qui est reconnue aussi aux États-Unis, en Australie, enfin, vraiment partout. Et c'est la base en fait de réflexion la plus aboutie qui part du web, mais qui a été étendue du coup pour être appliquée au-delà du web. C'est pour ça qu'on parle plus aujourd'hui d'accessibilité numérique que juste accessibilité web.
Parce que l'accessibilité numérique, quand on parle de, par exemple, de logiciels qui permettent à une personne aveugle, malvoyante, d'accéder à un contenu, du coup, c'est toujours de l'accessibilité numérique.
Alors là, on est sur de la technologie d'assistance.
Technologie d'assistance, voilà, qui est différente.
C'est comme le fauteuil roulant. Ça, c'est des technologies spécifiques qui sont développées. Donc, il y en a plein. Il y a effectivement, on parle du lecteur d'écran qui va être couplé à une synthèse vocale ou une flash braille pour une personne aveugle, ce qui est le cas le plus fréquent, mais aussi malvoyante et aussi des personnes qui sont de forte dyslexie, par exemple. Mais il y a aussi la dictée vocale, donc c'est speech to text cette fois, donc c'est quand on va dicter des messages ou qu'on va parler à son ordinateur pour le contrôler, donc sans les mains. Et puis il y en a tout un tas, il y a du matériel aussi, il y a des licornes, donc les headsticks, un bâton qu'on va fixer sur la tête pour taper sur un clavier si on ne peut pas utiliser ses mains, enfin bon, il y en a plein.
Merci pour ces exemples, effectivement, tu as expliqué très, très, très bien, c'est moi qui étais distraite, et d'ailleurs, en parlant de technologie d'assistance, donc d'outils spécifiques, je vais donner la parole à Bernadette, parce que
c'est plutôt sur ça sauf erreur, que son association travaille, notamment avec une distribution pensée, ciblée, notamment pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Donc je laisse la parole à Bernadette pour nous parler de son association et de cette distribution particulière.
Merci. Je suis totalement d'accord avec ce que Harmonie explique en matière d'accessibilité. J'y joindrai un petit peu, pour nous, l'accessibilité sociale aussi. C'est-à-dire que nous nous adressons aussi à des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'informatique, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur, ou parce qu'elles sont tellement mal avec elles-mêmes, elles ont manque de confiance en elles-mêmes, elles ne peuvent pas aborder un outil informatique parce qu'elles sont sûres d'avance de ne pas réussir. Donc nous, on travaille dans ce sens-là, dans le sens de l'auto-formation, dans le sens de l'estime de soi, et puis, bien entendu, avec des outils qui sont adaptés aux difficultés techniques. C'est pour ça que nous utilisons, nous, la synthèse vocale avec lecteur d'écran, bien sûr. Notre système utilise la souris quand les personnes ne peuvent et essentiellement le clavier.
Tu parles de notre système, je pense qu'on ne l'a pas encore nommé.
Non, on va en parler. On va en parler de notre système. On peut se brancher également sur une plage braille. Et puis, nous utilisons également des fiches pédagogiques et un système de reconditionnement des ordinateurs qui permet de mettre les ordinateurs à disposition des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, on est vraiment dans l'accessibilité, mais l'accessibilité très générale. Alors, quand je parle de notre système, c'est qu'on a un système qui s'appelle Access DB Linux, Access comme accessibilité justement, DB comme déficient visuel, et puis Linux comme le système bien connu. Et c'est une collection d'outils qui peuvent s'adapter aux différents handicaps. Et c'est avec ça que nous travaillons, avec en particulier un outil qui s'appelle le lecteur d'écran et un autre outil qui est la machine à lire. Et puis, nous avons fabriqué un système qui n'a surtout rien de spectaculaire, qui est un système de menu et qui rend un service considérable aux personnes qui utilisent notre système.
Quand tu dis, toutes les références seront disponibles sur la page consacrée à l'émission, bien évidemment, donc y compris le lien, par exemple, à Coina ou le lien à Access DB Linux ou au site de l'association ASIA, bien évidemment. Et tu disais que ça marche avec un système de menu. C'est quoi la particularité, si tu peux expliquer davantage?
La particularité, c'est qu'avec un raccourci clavier, on affiche sur l'écran un menu comme si on était au restaurant. Les personnes qui voient peuvent descendre avec la flèche bas sur la ligne qui les intéresse. Les personnes qui ne voient pas, le lecteur d'écran leur lit cette ligne-là. Et c'est un système absolument pas spectaculaire, mais qui rend service parce que les gens peuvent à tout moment dans leur travail relancer le menu et ouvrir un autre logiciel sans être obligé de fermer la fenêtre ou réduire la fenêtre dans laquelle ils sont pour aller cliquer ou ne pas cliquer sur une icône, etc. Donc c'est un système que nous utilisons sur Linux, c'est-à-dire pour nous sur Debian, sur Mint, que nous utilisons aussi sur un Raspberry et que nous avons réussi à implanter aussi sur Windows.
D'accord.
On a beaucoup de gens qui, malheureusement pour eux, sont encore sous Windows, mais que nous voulons quand même aider.
Bien sûr, donc pour rappel, effectivement, nous recommandons d'utiliser des logiciels libres et aussi un système d'exploitation libre, mais parfois on n'est pas prêt à passer un système d'exploitation libre tout de suite. Ben, il n'y a pas de problème, on peut s'y approcher progressivement, c'est un cheminement. Donc merci pour ces précisions. On parle beaucoup, là on a parlé de GNU Linux, donc le système d'exploitation libre. Tu as cité parler des logiciels, notamment un lecteur d'écran, on ne l'a pas nommé. C'est le logiciel Orca, c'est bien ça, Bernadette ?
C'est ça.
Qui est un logiciel libre. Et donc, j'ai envie de rentrer tout de suite de vous poser tout de suite une question que j'avais pensée pour plus tard. C'est-à-dire, quelle est la place pour vous du logiciel libre pour ce qui est de l'enjeu de l'accessibilité ? Harmonie, je te laisse la parole.
Alors, avant de répondre à ta question, si tu permets, je voulais réagir à ce qu'avait dit
Je t'en prie.
Sur le fait que vous faites de l'accessibilité, mais aussi pour des personnes, accessibilité sociale, tu disais, Bernadette. En fait, moi, je me positionne vraiment comme travaillant dans l'accessibilité numérique. Et l'accessibilité numérique, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes handicapées, et j'y tiens. Mais dans la définition de l'accessibilité numérique, il faut que ce soit pensé dans une optique de conception universelle. Ça fait partie, en fait, tous ces termes-là, ils sont définis dans ce qu'on appelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifiée parmi d'autres États.
Pour contextualiser le moment historique, ça remonte à quand ?
La convention, il me semble que c'est 2003, ratifiée par la France en 2007. Si je ne m'abuse, j'ai peur de dire des bêtises, je suis en fin de journée. Non, je pourrais vous donner les dates précises.
D'accord, voilà, début année 2000 et puis ratifié en France plus tard.
Voilà, c'est ça, il me semble. Mais du coup, et nous, on a une loi, la grande loi accessibilité numérique qui est basée sur qui est censée en tout cas être basée sur cette convention de l'ONU qui date de 2005, dans sa première version, le 11 février 2005. Et du coup, la conception universelle, le principe, c'est de dire, il y a un slogan du W3C que j'aime bien, qui dit que l'accessibilité numérique, c'est nécessaire pour certains, mais utile à toutes et tous. Et ça doit être vraiment pensé comme ça, mais je tiens quand même à dire que pour moi, l'accessibilité numérique, et pas que pour moi, hein, pour la définition aussi légale, c'est pour les personnes handicapées, et ça doit bénéficier au plus grand nombre. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que le travers que je vois, c'est qu'on entend beaucoup parler d'inclusion. Je sais pas, vous avez dû entendre parler, c'est un peu la tarte à la crème, l'inclusion.
C'est un bon mot, en même temps.
Même en Afghanistan, ils ont essayé de faire un truc inclusif, très très drôle, enfin voilà. Donc la conception, pour moi, c'est tellement à toutes les sauces. Et pourtant, tous les projets qui parlent d'inclusion ne font pas d'accessibilité numérique. Donc il y a énormément de projets qui font de l'inclusion. Non, mais c'est pas du tout une contestation, mais c'est pour ça que je tiens à affirmer, je connais pas du tout l'association, enfin c'était pas du tout en réaction au projet de l'association de Bernadette, hein, je me permettrai pas.
Sentiment en fait.
Beaucoup plus c'est plus général pour nos auditeurs et nos auditrices qui vont peut-être entendre beaucoup parler d'inclusion et se dire tiens, ça veut dire qu'ils parlent aussi d'accessibilité, méfiez-vous. Parce que c'est une notion qui est tellement large et polysémique, c'est-à-dire que le mot accessibilité, quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire oui, l'accès au réseau, les droits d'accès, intranet, etc. Pas du tout. L'accessibilité numérique, c'est vraiment pour les personnes handicapées, pour leur permettre d'utiliser les outils numériques. Et ça doit être pensé, c'est dans la définition même de la Convention de l'ONU, dans une logique de conception universelle, c'est-à-dire nécessaire pour certains, utile à toutes et tous. Donc c'est pas excluant du tout, au contraire, la vraie inclusion doit prendre en compte l'accessibilité. Voilà. Fin de la parenthèse, je suis désolée, peut-être que tu
Ah non, c'était important, c'est ton point de vue qui montre comme le mot inclusion, en fait, qui est beau sur papier, peut être facilement vidé des sens si on regarde pas à ce qu'il contient vraiment.
Exactement. Donc j'appelle à la vigilance, je dirais.
T'as complètement.
Très peu de gens en font, et de l'inclusion, tout le monde en parle pourtant. Donc voilà, j'appelle juste à la vigilance.
T'as complètement raison. C'était une parenthèse importante, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, je voulais savoir déjà si Bernadette souhaitait rebondir sur ce que.
Non, mais tout à fait d'accord avec ça. Et nous, on est clairement dans l'accessibilité, mais effectivement, la possibilité de que ça puisse être utilisé par tout le monde. Nous, on est d'abord, et c'est dans notre sigle, on est d'abord sur l'accessibilité et l'accompagnement du handicap. Donc c'est clair.
Oui, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas « mais on est ouvert à tout le monde », c'est normal en fait. Si on fait de l'accessibilité, c'était un peu ça, c'est « et du coup, on est ouvert à tout le monde ». C'est le cœur en fait, c'est ça qu'on a tendance à opposer, c'est-à-dire que l'accessibilité, c'est pour les personnes handicapées et donc pour tout le monde. C'est vraiment, ça va ensemble en fait. Donc, et la notion d'inclusion, je suis complètement d'accord avec Isabella. Je trouve que le mot est très beau, le concept est très beau, et on parle d'inclusion chez Coena, on en fait aussi. Mais du coup, ça, pour que ce soit réellement inclusif, il ne faut pas exclure des personnes, donc il faut que ce soit accessible. C'est la base en fait.
Donc l'accessibilité comme condition de base pour avoir l'inclusion, c'est l'accessibilité d'abord.
Exactement, tout à fait.
Et dans nos échanges préalables, en fait, tu me disais que même pour le logiciel libre, en fait, s'il n'y a pas l'accessibilité, si l'accessibilité n'est pas prise en compte dès le début, bah pour toi c'est pas vraiment libre, si j'ai bien compris. Mais je te laisse détailler ce point.
Ça peut être libre, mais un logiciel libre n'est pas automatiquement accessible.
Tout à fait.
Ça c'est évident, et on se heurte souvent à cette difficulté là. L'accessibilité pour les personnes handicapées est très mal prise en compte, mais en partie aussi par ignorance, parce qu'il y a des gens qui ignorent complètement ce que c'est que d'être aveugle et de se servir d'un ordinateur. Ils ont de la bonne volonté, mais ils ne se rendent pas compte. Et peut-être qu'ils ne prennent pas les moyens aussi de savoir comment découvrir ce handicap et les moyens de compensation.
Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Peut-être aussi parce que les personnes handicapées sont assez invisibles dans notre...
Non, ce n'est pas ça. C'est parce que si vous n'avez jamais mis une personne les yeux bandés devant un ordinateur en lui demandant d'aller chercher sa messagerie, elle peut pas se rendre compte.
Donc tu dis, mais dans les aspects pratiques, il y a une ignorance dans les aspects pratiques, pas forcément des enjeux en soi, mais après dans la pratique, comment j'ai fait vraiment pour répondre aux besoins. Il faut partir des besoins, comme tu dis. Je laisse la parole à Harmonie qui souhaite peut-être rebondir sur ce point. On parlait aussi, on parlait des logiciels et des logiciels libres en particulier.
Oui, tout à fait. Alors un logiciel libre, on le définit communément en se basant sur la définition de la FSF et de la licence GNU, donc avec quatre libertés. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme. La liberté une, c'est la liberté d'étudier son fonctionnement, et donc d'accéder au code source. C'est une conséquence de cette deuxième liberté, le côté open source. La troisième liberté, c'est de pouvoir le modifier pour l'adapter à ses besoins. Et la quatrième liberté, c'est de pouvoir partager ses modifications. Donc, le raisonnement que j'avais eu avec d'autres il y a déjà quelques années, c'était de dire, ok, mais si je ne suis pas libre d'exécuter le programme, parce qu'en fait, il n'est pas accessible et que du coup, je suis handicapée, est-ce qu'on peut toujours parler de logiciel libre? Et donc la question, c'est est-ce que le code, est-ce que pour qu'un logiciel soit libre, il suffit de dire que le code est libre, ou est-ce qu'il doit être libérateur, le logiciel en question?
Benjamin Bayard parle de logiciel libérateur, effectivement.
Eh oui, et la deuxième définition de Richard Stallman lui-même, en général, il dit donc soit les quatre libertés, soit il dit toujours, c'est liberté, égalité, fraternité. Elle est où la liberté, si c'est la liberté uniquement des personnes valides? Est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est un privilège? Elle est où l'égalité, si finalement, en fait, pour accéder au logiciel, il faut être valide? Est-ce que c'est toujours l'égalité et la fraternité? Alors parlons-en. Si la réponse du développeur, c'est dire « c'est libre, débrouille-toi, t'as qu'à le rendre accessible », elle est où la fraternité? Donc pour moi, en fait, si on va dans l'esprit, plus dans un sens philosophique, je ne parle pas évidemment de la licence dans un sens juridique du terme, mais d'un point de vue philosophique, que ce soit l'une ou l'autre des définitions, un logiciel ne peut être réellement libre et libérateur qu'à condition qu'il soit accessible. C'est une condition sine qua non. Et là, on revient un peu au sens premier des droits humains. Normalement, les personnes naissent libres et égales en droit, et donc les humains en tout cas. Et donc si une personne handicapée est considérée comme un être humain, et c'est une vraie question, c'est à la société de s'adapter pour l'ensemble de la diversité de ces êtres humains. Et aujourd'hui, on est dans un modèle qui est clairement conçu par et pour des personnes valides, qui est en plus une chimère, personne ne correspond pleinement à ce que c'est qu'une personne valide. On dit souvent, parfois, personne en situation de handicap, mais en fait, on devrait dire personne en situation de validité.
On est tous dans des situations. On a tous notre... Tout le monde a sa situation, sa condition, effectivement.
Exactement, mais le côté situation de validité est sans doute encore plus juste, parce que pour le coup, qui est en permanence 100% de ses capacités, de tout le temps, c'est pas possible.
On peut avoir un handicap temporaire, c'est ça aussi qu'on oublie souvent. Il y a des, voilà.
Alors, oui, aussi. Bon, après, on pourra, si tu veux, parler de ce que c'est que le handicap. Donc là, il y a beaucoup de définitions, mais il y a une définition précise aujourd'hui qui n'est absolument pas reconnue correctement dans la loi française et encore moins appliquée par la CPP, épinglée par les Nations Unies. Là, le rapport de l'ONU est sorti le 14 septembre 2021. C'est tout récent, avec 20 pages de sur les 20 pages de rapport, il y a une page d'aspect positif et 19 pages de inquiétudes et recommandations, concerns and recommendations. Donc voilà, c'est pour donner avec en disant que ça pensait de la discrimination dans la conception même en fait de ce qu'on fait. Et ça a totalement un rapport avec la façon dont on conçoit les logiciels libres ou pas. Évidemment, mais du coup c'est encore plus fort je trouve dans le logiciel libre, puisque le logiciel libre se veut éthique, le logiciel libre se veut libérateur, le logiciel libre donne un peu des leçons de morale aussi hein, quand on est engagé, évidemment je l'ai fait aussi hein, donc, bah, du coup allons au bout du sujet, est-ce que vous êtes vraiment libre, si vous n'êtes pas accessible, ma réponse est non.
Tu t'attends en fait encore plus du logiciel libre étant donné c'est comment dire, ce qu'il promet. Et est-ce que Bernadette veut rebondir sur ce sujet en particulier ?
Non, bah, je trouve que Harmonie, qui est dans une situation de handicap, puisqu'elle nous l'a dit, a parfaitement analysé les choses, et je voudrais bien que les décideurs, un petit peu partout, prennent en compte ce qu'elle a dit.
Merci beaucoup. Écoutez, je pense que je remercie déjà pour vos interventions et je vous propose de faire une courte pause musicale pour donner une respiration à notre conversation. Nous reprenons tout à l'heure. Nous allons écouter un morceau de musique qui s'appelle Terre de couleur par Low et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune 93.1.
Le soleil m'a donné différentes couleurs, gris comme les nuages, rouge comme la peur, et c'est un rien qui fait tout comme chaque cœur. Le même sang d'encre et de malheur, terre de chaleur, prends mon accident, donne-lui tes couleurs de curry, de safran, j'aime pas ces dans le
Nous venons d'écouter Terre de couleur par l'eau, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous.
Libre à vous. Libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Nous échangeons avec Bernadette et Harmonie sur le thème de l'accessibilité informatique. Donc Bernadette fait partie de l'association ASIA et Harmonie Altigné fait partie de la société Quena. Bernadette, tout à l'heure, tu as abordé les différentes actions que l'association ASIA mène. Et j'aimerais que tu parles un peu plus du concept d'auto-formation, c'est-à-dire comment vous vous prenez en fait pour aider les personnes, bah déjà comment les personnes handicapées vous trouvent et ensuite comment vous faites pour d'abord les aider à s'approprier dans l'informatique, c'est ça un peu le concept d'auto-formation, moi je te laisserai préciser, et puis comment vous faites pour les accompagner par la suite, si jamais ils ont un problème, je te laisse la parole.
Eh bien, les personnes nous trouvent en partie par notre site internet, qui a une fréquentation importante, y compris à l'international, puisque nous avons une cinquantaine de pays différents par jour qui viennent voir notre site internet, parce que c'est un site qui donne l'utilisation des raccourcis clavier, je dirais à 95% du site, ce sont des raccourcis clavier, et qu'on ne trouve guère ces explications ailleurs, parce que en fait c'est nous qui les avons mis au point. Ce sont des raccourcis qui existent, mais ce que nous avons mis au point, c'est l'explication. Donc d'une part, ils nous trouvent ainsi. D'un autre côté, nous faisons des communiqués de presse dans la presse locale ou dans la presse des collectivités territoriales. Et les personnes, à ce moment-là, viennent nous voir comment fonctionne notre système. Et puis nous pouvons les aider. Alors pour les aider, nous utilisons effectivement l'auto-formation parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'elle soit le plus rapidement possible autonome. Donc nous ne faisons pas du tout un enseignement type école, nous faisons un accompagnement. C'est-à-dire que quand une personne arrive pour la première fois, nous mettons à côté d'elle un bénévole. Donc nous avons un bénévole pour une personne. Quand les personnes sont un petit peu plus expérimentées, nous mettons un bénévole pour deux personnes. Ce qui exige pour nous d'avoir pas mal de bénévoles. Et puis nous fournissons à la personne des fiches pédagogiques. Quand ce sont des personnes qui voient, par exemple des personnes, leur problème c'est qu'elles n'ont qu'une main, par exemple. Quand ce sont des personnes qui voient, eh bien elles lisent elles-mêmes la fiche, elles font elles-mêmes les manipulations, le bénévole à côté est surtout là pour les rassurer et pour leur dire que ce qu'elles font, c'est bien. Ce qui nous importe, c'est que la personne fasse par elle-même, qu'elle emporte les fiches à la maison, mais qu'elle sache au bout de la première séance que déjà, elle a commencé à réussir.
Elle gagne en confiance.
C'est très important. Et puis quand ce sont des personnes, donc on a à peu près 135 fiches pédagogiques destinées aux personnes voyantes. Et puis quand ce sont des personnes aveugles, nous avons des fiches particulières qui sont non pas en ODT, ou en point doc, mais qui sont en point txt, c'est-à-dire en format texte. Et ces fiches ont été rédigées spécialement pour les personnes aveugles avec la collaboration de personnes aveugles qui les ont relues, amendées, complétées, etc. Parce que lorsqu'on dit à une personne qui voit qu'elle peut faire un clic droit, on ne peut pas dire à un aveugle de faire un clic droit. Parce que la souris ne la voit pas. Donc nous, il faut qu'on leur dise de faire un menu contextuel. Et beaucoup de gens qui voient ne savent même pas ce que c'est qu'un menu contextuel. Donc nous, il faut qu'on explique que sur un clavier externe, il y a une touche menu, ou alors qu'il faut faire le raccourci clavier marche F10. Donc nous avons rérédigé une centaine de fiches de façon à ce qu'elles puissent être utilisées comme ceci pour les aveugles. Donc nous occupons des personnes lorsqu'elles viennent à l'atelier, et puis nous pouvons nous en occuper aussi en dehors des ateliers, parce que nous avons installé un système de prise en main à distance qui n'est pas TeamViewer, mais qui est DW Service, et qui nous permet, à la demande de la personne, de voir son ordinateur et de la guider. L'objectif, encore une fois, c'est que la personne puisse se débrouiller seule. Voilà comment nous procédons.
Merci.
Et nous procédons comme ceci, avec des personnes non-voyantes dans la France entière, quitte à adapter les outils. Ça peut être adapter un raccourci clavier qui soit plus facile pour elles. Ça peut être aussi créer une ligne dans le fameux menu dont je vous ai parlé, qui leur permette d'accéder plus rapidement. Je pense par exemple à des personnes qui veulent aller sur la bibliothèque sonore de l'association Valentin Horry. Eh bien, nous avons fait une ligne pour qu'elles puissent rapidement se connecter, une autre pour qu'elles puissent chercher les livres par titre ou par auteur. Et puis ensuite, nous leur avons appris à télécharger le livre dans leur dossier téléchargement, à le dézipper, à le copier-coller pour pouvoir l'utiliser sur une clé USB et un lecteur externe. Et notre satisfaction, c'est quand les personnes nous disent « Oui, finalement, c'est assez facile. » Alors que beaucoup de personnes voyantes ne seraient pas capables de faire ça, du moins dans un premier temps.
Merci. Donc, tu as cité l'association qui défend les droits des déficients visuels. Tu parlais de l'accompagnement à distance et du fait que vous pouvez, grâce à ça, aider des personnes dans toute la France.
Oui.
Et en fait, votre association, elle a son siège, si je me souviens bien, à Châteaubriant, c'est ça ?
Oui.
Mais en fait, finalement, l'activité, ça se passe dans la France entière. Comme tu me disais, même les fondateurs de l'association étaient dans trois lieux différents. Et vous arrivez à aider autant de personnes. Et vous avez aussi beaucoup de bénévoles. Comment vous recrutez les bénévoles ?
Bien, les bénévoles, on en a sur place 20 à 25. D'une part, ce sont des gens en retraite qui déjà étaient à l'aise avec l'ordinateur, du moins avec Windows. Donc là, on leur montre comment travailler avec Linux. Et puis autrement, ce sont des personnes qui ont démarré l'informatique à zéro. Et puis dès qu'on a vu qu'elles étaient un petit peu plus à l'aise, on leur demande d'être bénévoles, sachant que leur travail n'est pas d'enseigner aux autres, mais d'accompagner et de rassurer. Et à ce moment-là, comme ça se passe vraiment bien, quand on s'aperçoit que les personnes sont contentes, eh bien ça valorise également les bénévoles qui, en même temps, apprennent des choses nouvelles à chaque fois.
Très bien, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise incroyable pour aider,
non,
pour contribuer.
Parce que nous avons nos fiches pédagogiques qui sont très détaillées, qui sont très pédagogiques, c'est le cas, et avec des fiches pour un sujet. Une fiche, ça peut être éteindre l'ordinateur. Une autre, ça peut être copier-coller. Une autre, ça peut être enregistrer. Mais de façon à ce que les personnes puissent avoir quelque chose de pas à pas, descendre sur telle ligne, valider avec entrée, descendre deux fois avec la flèche bas, etc. quoi.
Donc il faut vraiment un minimum de connaissances. Vous avez pensé à tout, vous avez pensé à des supports qui guident les actions. Donc il faut juste avoir un peu de temps finalement. Donc c'est très simple de pouvoir aider.
Et notre système est effectivement très simple. C'est un système Linux, c'est un système sans virus bien entendu, et c'est un système beaucoup plus facile que Windows, ce qui fait que nous avons des gens qui viennent nous voir avec un ordinateur donné par les petits-enfants avec Windows et qui s'en sortent pas. On essaie de les aider quand même parce qu'on veut pas brusquer les gens, mais on leur montre notre système et à ce moment-là, la plupart du temps, les personnes passent avec notre système.
Super, merci beaucoup. Harmonie, ta société Quena, en ce moment travaille sur un projet qui est assez innovant et je te laisse la parole par rapport à ce projet qui s'appelle Quena Connect, si je me souviens bien.
Oui, effectivement, on est sur pas mal de projets, mais le projet sur lequel on est en train de clore une expérimentation s'appelle effectivement Quena Connect. Alors, Quena Connect, c'est un projet qui a bénéficier en fait du soutien au départ de BPI France pour faire ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire un prototype, depuis, c'est en 2017. Et ensuite, on a eu une espèce de prototype qu'on a construit, donc un logiciel. Et ensuite, on est sur une phase, donc c'est un deuxième dispositif qui s'appelle Innovate Expérimentation, qui permet en fait de tester le logiciel en conditions réelles avec des partenaires. Donc on a deux partenaires, un partenaire qui est Thibault, qui est un réseau de bus dans le Val d'Oise où on est implanté pour pouvoir travailler localement aussi. Et l'intérêt aussi de ce partenaire, outre qu'il est très motivé et depuis le début et pour participer, ce qui est une des conditions du succès, c'est que c'est un réseau de bus, donc ça permet de tester l'accessibilité numérique comme un des maillons de la chaîne. Parce que l'objectif de prendre le bus, c'est pas d'aller sur le site web, c'est un des maillons seulement. Et puis, un autre partenaire que nos auditeurs, auditrices connaissent sans doute bien, c'est l'association Framasoft, où on a testé Coena Connect sur Mobilizon.
Donc, on va rappeler ce que c'est Mobilizon. Donc c'est un service effectivement proposé par Framasoft, mais qui en fait, bien évidemment est un service libre. L'idée c'est que n'importe qui a un serveur peut l'installer. Et l'enjeu c'est la décentralisation bien évidemment, et c'est un service qui permet d'organiser des événements et de les promouvoir, etc. Et donc voilà, Framasoft propose son instance, et c'est sur cette instance que le test, on va dire, est possible. Et je te laisse dire comment faire si vous voulez vérifier vous-même.
Oui, alors c'est sur trois instances en fait. C'est sur l'instance de Framasoft, c'est aussi sur l'instance de Colibri et l'instance de Qu'est-ce qu'on fait.
Merci de la précision, c'était trois.
Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai toujours pas dit que c'était Coena Connect. Hein.
C'est vrai. Feeling,
c'est la mise en place. Donc Coena Connect, le principe, c'est de tester quelque chose d'extrêmement innovant. Donc à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est de remettre de l'intelligence non artificielle, de l'intelligence humaine, des choses pas automatiques, et de remettre de l'humain au milieu de tout ça. Donc ça peut paraître old school, mais vu la façon dont on peut faire les choses, finalement assez disruptif, si on veut prendre le langage un peu start-up qu'on est obligé d'utiliser pour bénéficier des financements adéquats. Et donc l'idée, c'est une expérimentation qui est donc à la fois technique, technologique. Donc on développe un logiciel évidemment libre, dont on publiera le code, mais il y a tout un travail où on est accompagné par le cabinet InnoCube, les licences, quelles licences on peut utiliser, la compatibilité entre les différentes licences, la façon de publier, etc.
Le choix de la licence sous laquelle, parce qu'on on rappelle notre public, les logiciels libres sont publiés avec une licence. Il y a des personnes qui confondent souvent avec, ils disent libre de droit, pas du tout. C'est vraiment le principe, c'est qu'on s'appuie sur le droit d'auteur pour donner des libertés aux autres personnes, et ça parfois ça peut être un casse-tête. Donc comme tu disais, ça peut retarder un petit peu la publication, mais c'est prévu.
Si on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps de bien analyser le contexte. Pourquoi on a besoin de mettre une licence libre? C'est parce que dans le droit actuellement, si on ne met pas de licence, par défaut c'est une licence privative. C'est-à-dire que par défaut, si on ne met pas de licence, il n'y a aucun droit. Donc on est obligé d'associer une licence pour expliquer quel droit on peut donner. Or, quand on développe un logiciel, on s'appuie sur des briques logicielles existantes qui ont chacune leur propre licence. Toutes ces licences, selon les versions en plus, ne sont pas toutes compatibles entre elles. Donc il y a eu tout ce travail qu'on a fait. Donc pour les personnes qui sont curieuses, le choix final, ce sera une licence AGPL 3. On ne peut pas dire AGPL 3 ou supérieur à cause d'une brique. Il y a juste mis 3, donc on ne peut pas. Mais voilà, donc ce sera de la GPL 3, peu importe le détail, ce sera du libre. Donc pour l'instant, ce sera publié a priori mi-novembre, le temps de finaliser. Et donc l'objectif, en fait, c'est de faire de la médiation en accessibilité numérique. Le logiciel, c'est vraiment un logiciel de suivi de la médiation. Donc si vous allez sur le site Mobilizon, mobilizon.fr,
on mettra la référence.
Tout à fait. Vous avez un bouton, une image où il y a écrit « Contact accessibilité » tout en haut. On ne peut pas vraiment le rater, en tout cas à la date du 30 septembre. Et donc, quand on clique, là, on va se retrouver finalement sur Coena Connect, sur l'outil qu'on a développé. Vous avez un formulaire en trois étapes, et donc aux couleurs de Framasoft. et de mobilisons, et où vous pouvez dire, ben moi j'arrive pas à utiliser le site, j'ai un problème, il y a quelque chose qui marche pas. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez nous appeler dans les horaires de bureau. Donc, mais du coup, on met un numéro de téléphone, puisque si quelqu'un a des difficultés avec le numérique, ben, du coup, c'est pas forcément... parfois, certaines personnes sont plus à l'aise au téléphone. Vous pouvez nous écrire par mail, où il y a une adresse directe, ou vous pouvez remplir le formulaire pour ceux qui sont plus autonomes et qui ont un problème différent. Et donc là, dans ce cas, on demande le moins d'informations possible. Il y a une première étape où on a besoin de savoir comment vous contacter quand même, parce que l'idée c'est que quand une demande est faite, notre médiatrice en l'occurrence vous rappelle, vous recontacte sur le moyen que vous allez donner de votre choix, et donc c'est d'amorcer le dialogue en fait. Vous pouvez renseigner si vous le souhaitez, si vous avez des technologies d'assistance, toutes les infos techniques qui peuvent nous aider. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de dire quel est votre problème. Alors, le formulaire est un peu long. Du coup, le seul champ obligatoire, c'est juste de dire quel est le problème. Après, vous pouvez directement sauter et valider votre demande de médiation et on verra ensemble. Nous, le formulaire est pensé pour recueillir les besoins techniques, qualifier en fait techniquement quel est le problème. Un exemple d'une demande qu'on a eue sur Mobilisons, justement, d'un utilisateur qui nous dit eh « ben, moi, je suis lecteur d'écran et ça vocalise en anglais, alors que je suis sur un site en français ». Alors, la solution qui était connue, en plus, de Framasoft, parce qu'ils avaient eu déjà, ils avaient fait faire des audits, mais un audit, le problème de l'audit, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont remontés, on ne sait pas ce qui est prioritaire, et puis du coup, ils sont, enfin, Framasoft font de grandes choses, mais avec une toute petite équipe, donc ils peuvent pas, voilà, c'est compliqué de tout gérer. Et ben là, du coup, on avait un cas très concret d'un utilisateur, et la solution était simple, c'est-à-dire qu'il fallait changer le... Ah, c'est technique, je le dis quand même, pour ceux que ça intéresse, mais donc c'est dans le HTML, sur la balise HTML, le code langue, l'attribut langue, avait un code figé qui était en EL, donc en anglais, qui va activer la synthèse vocale en anglais. Alors qu'il faut que ça change selon la langue de la page. Donc, ça les met en français, mais que quand on passe en anglais ou il y a plein de langues, ça change à chaque fois. Et donc ça, Thomas, le développeur du projet, l'a corrigé assez vite. On a vérifié avec l'utilisateur que ça a fonctionné pour lui, que tout allait bien. Il a dit oui, il était satisfait, et voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une demande de médiation qu'on a traitée.
Donc ça permet de recueillir une remontée d'anomalie, donc de prendre en compte un besoin et de le suivre et de le régler finalement assez rapidement si c'est possible. Dans ce cas-là, tu as décrit un cas qui était assez facile et rapide pour le développeur.
Alors plus ou moins en fait, assez facile et rapide, c'est-à-dire que c'est nous la promesse qu'on fait, c'est-à-dire que Coena, on est professionnel, on est expert du domaine. Y compris techniquement, y compris dans le code. Donc nous, c'est de vraiment faire la médiation, c'est-à-dire de recueillir la parole, le besoin, la difficulté de la personne handicapée ou de la personne tout court, parce que justement, on parlait d'inclusion. Notre service, la question s'est posée très vite. Est-ce qu'on traite que des demandes de personnes handicapées? C'est stupide, enfin, parce que je ne vais pas demander la carte aux gens. Enfin, je vois pas comment on peut faire ça. Donc, c'est clairement pour les personnes handicapées, on le dit, mais on accepte toutes les demandes. Et pour moi, l'inclusion, ça devrait être ça. C'est d'abord pour les personnes handicapées, mais évidemment, quelqu'un a un problème, quel qu'il soit, on l'aide si on peut. Et du coup, ce qui est très intéressant dans les statistiques qu'on a sur les remontées qu'on a eues sur ces deux partenaires en quelques mois, on doit avoir du 50-50, c'est-à-dire que 50% des gens qui demandent de l'aide ne sont pas en situation de handicap et ils n'y arrivent pas quand même. Et du coup, grâce à l'accessibilité, on peut les aider. Et c'est ça la force de l'accessibilité.
Bernadette veut rebondir peut-être ?
Ah oui, bah tout à fait. C'est effectivement les situations qu'on rencontre. Il n'y a pas que spécifiquement les personnes avec un handicap reconnu.
C'est ça. Et du coup, reconnu, alors encore moins, parce que la reconnaissance, franchement... Mais bon, du coup, ça c'est un autre débat, mais du coup, l'inclusion pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'on est inclusif, c'est-à-dire même pour les personnes valides. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, l'inclusion. C'est-à-dire on part de la base et on est inclusif, c'est-à-dire qu'évidemment on accepte d'aider, y compris les personnes valides qui n'ont pas de handicap particulier. C'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a souvent le préjugé de dire... oui, mais si c'est écrit pour les personnes handicapées, ils ne vont pas s'en saisir. La preuve que les gens, ça ne les dérange pas qu'il y ait accessibilité. Hein. Ils ont besoin d'aide, ils nous appellent, même s'ils sont, enfin, ils s'en fichent qu'il y ait écrit handicap, accessibilité, ça les rebute pas du tout. Donc,
voilà, ça, c'est, ça souvent c'est des idées reçues. Ils profitent du service. Complètement.
Exactement, mais c'est positif. Moi, je trouve ça bien.
Absolument. Mais merci beaucoup d'avoir présenté ce projet. Les partenariats, c'est important, et je pense qu'il y a un partenariat dont Bernadette souhaitait parler. On n'a pas énormément de temps, mais je crois que vous avez réussi à produire des logiciels très utiles grâce à ça.
Bon, nous avons un projet aussi. C'est un projet de machine à lire. C'est-à-dire la possibilité pour un aveugle d'avoir un petit boîtier qui lui permet de prendre la photo d'un document papier, là où il se trouverait, par exemple au restaurant, que l'ordinateur analyse le texte et lui le restitue vocalement. On a commencé à travailler dessus, la partie logicielle est bien avancée, on est rendu à la partie technique, c'est-à-dire adapter une micro-caméra sur un Raspberry, et puis et bien entendu un haut-parleur et puis une batterie. Et nous travaillons ce projet-là avec une entreprise, qui est une entreprise dans le domaine traditionnel, mais qui est en train de préparer en particulier l'introduction de l'intelligence artificielle. Et puis cette entreprise qui nous accompagne de très près nous a fabriqué à notre demande deux petits logiciels dont nous avions besoin. Un qui permet de remplir un chèque directement sur l'ordinateur même quand on ne voit pas, et le deuxième qui permet d'apprendre à taper sur les claviers et à prendre la machine sans regarder les doigts. Alors il existe un système qui permet de le faire avec Windows, mais il n'existait rien qui permettait de le faire avec Linux, et cette entreprise nous le fabrique. Et ça, c'est un partenariat auquel nous tenons beaucoup. L'entreprise s'appelle Digital for Better, et ça nous fait beaucoup de bien d'être ainsi accompagnés dans notre travail et dans nos buts communs.
Merci. On a parlé deux fois à deux reprises de Raspberry, mais je crois que on n'a pas précisé de quoi il s'agit. C'est un petit ordinateur.
Un Raspberry, c'est un petit ordinateur
qui rentre dans une poche.
Carte de crédit, qui coûte à peu près 50 euros, qui fonctionne super bien. Moi, je m'amuse beaucoup dessus, mais qui n'a pas la même architecture que les ordinateurs ordinaires. Mais le système que nous avons, le système AccessDB Linux, est adapté aussi bien sur les PC traditionnels que sur le Raspberry. Sur le Mac, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, tout simplement parce que nous sommes une toute petite association, que nous n'avons pas beaucoup d'argent, que nous n'avons pas de Mac. Si on en avait un, on se ferait un plaisir de l'essayer tout de suite.
L'intérêt de Raspberry aussi, du fait que c'est petit, c'est que effectivement les personnes handicapées peuvent l'apporter avec eux, avec elles. Je suis vraiment désolée, moi j'ai adoré cet échange et je suis navrée de vous annoncer que malheureusement il nous reste que quelques minutes, et normalement on aime bien réserver ce quelques minutes finales au dernier mot, c'est-à-dire au message que vous souhaiterez faire passer. Donc je vous laisse la parole, peut-être suggérer qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer nous-mêmes à cet enjeu, ou ce que vous voulez. Je laisse parler Harmonie d'abord, en deux minutes.
En deux minutes, formez-vous.
Je suis vraiment désolée.
En 5 secondes, formez-vous.
Vraiment,
si vous êtes, quel que soit votre domaine, si vous contribuez à un projet numérique, que ce soit en tant que développeur, chef de projet, webmaster éditorial, donc contributeur, graphiste, designer, UI, enfin voilà. Quel que soit votre métier dans le numérique, formez-vous. Ne préjugez pas, c'est un domaine qui est très sous-estimé, il y a une vraie compétence technique à acquérir. C'est pas la mer à boire, quelques jours suffisent, mais vraiment, formez-vous. Parce que l'accessibilité, c'est pas après coup qu'on arrive à le prendre, c'est quelque chose qui doit être pensé dès le départ, dès la conception, pendant le développement, tout au long de la maintenance. Et la chose la plus dramatique aujourd'hui dans le numérique, c'est les régressions. C'est-à-dire que même quand on pense qu'un site ou un logiciel fonctionne, il est mis à jour et bam, ça régresse. Pourquoi ? Parce que les personnes manquent de compétences, donc formez-vous.
Voilà. Merci Arbaudi, merci beaucoup. Je laisse la parole à Bernadette.
Bien, le message, c'est que nous avons besoin d'être connus de façon à pouvoir aider davantage les personnes qui en ont besoin. Et pour ça, ben, ma foi, nous remercions votre radio parce que nous sommes en zone rurale. En zone rurale, on a beaucoup plus de difficultés à avoir de la visibilité. Et là, ben, vous nous donnez cette visibilité et que les personnes fassent appel à nous, on essaiera de les aider au maximum. Et nous aussi, on fait appel, et je vais faire certainement appel à la Société d'Harmonie, faire appel à ceux qui savent pour pouvoir progresser dans leurs besoins.
Merci, Ongra. Merci à nos deux invités d'aujourd'hui. Donc Bernadette de l'association Asia et Harmonie Altinier de la société Coena. Bonne continuation à vous et pour tous vos projets, bien sûr.
Merci pour l'invitation et puis enchantée d'avoir rencontré du coup Bernadette.
Merci beaucoup.
Merci. Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au sujet de l'accessibilité en informatique. Nous allons faire une pause musicale. Pour cette dernière pause musicale, nous allons écouter un morceau du groupe Lemuria de la commune Conneret, Pays de la Loire. C'est du rock prog pour progressif. Ce n'est pas à la base mon genre, mon style préféré. Néanmoins, j'aime beaucoup ce morceau qui s'appelle Île de Mer Ouest. Nous allons donc écouter Île de Mer Ouest par Lemuria sous licence libre Creative Commons CC BY-SA.
Cause commune 93.1.
Plus rien ne reste, ni mort ni vie.
Nous venons d'écouter « Île des mers ouest » par Lemuria, sous licence libre Creative Commons, attribution partage à l'identique CC BY SA 3.0. La particularité de ce groupe, c'est qu'il a publié avec la coopérative d'artistes, l'une des particularités de ce groupe, c'est qu'il a publié avec la coopérative d'artistes AMMD, donc des artistes qui publient uniquement sous licence libre, et je vous ai mis à nouveau la référence sur la page consacrée à l'émission. Ce n'est pas en fait la première fois qu'on diffuse de la musique produite par cette coopérative.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous.
Libre à vous. Libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis en podcast.
Je suis Isabelle Lavani. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Partagé et bon » de Véronique Bonnet, aujourd'hui sur le thème « Logiciel libre et autonomie ». La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons l'écouter et on se retrouve après.
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle chronique de Véronique Bonnet, présidente de l'April. La chronique est intitulée « Partagé et bon » et le sujet du jour, c'est « Logiciel libre et autonomie ». Bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Alors je te laisse la parole.
Alors c'est vrai que l'autonomie de l'utilisateur est au cœur du projet du logiciel libre. Les quatre libertés prévoient la liberté d'exécuter un programme, la liberté de l'étudier, la liberté de l'améliorer, la liberté d'en distribuer des copies modifiées ou non modifiées. Et il se trouve que dans l'histoire de la philosophie occidentale, la question de l'autonomie a d'abord concerné la parole. Des modifications profondes ont eu lieu en Grèce, à Athènes, à partir du VIe siècle avant notre ère. À ce moment-là, il y a eu l'éclosion de la démocratie, du raisonnement mathématique et scientifique, de la philosophie elle-même, et surtout de la libre prise de parole, et je vais montrer pourquoi c'était une révolution. Avant, la parole était la chasse gardée de quelques-uns, les chefs, les rois, les dignitaires religieux, disposaient d'une parole d'autorité. Seuls quelques-uns pouvaient prendre la parole, selon les rituels requis. Cette parole était réputée vraie, tous les autres devaient obéir, il était impossible d'objecter. On ne pouvait pas, à cette parole, opposer une autre parole. Et progressivement, les historiens nous disent que c'est parce qu'il y avait beaucoup de guerres, que beaucoup de rois avaient cessé de vivre sans avoir pu transmettre ce droit de parler à leurs successeurs, et donc ont dû inventer une autre forme de parole, la parole libre, et en même temps l'autonomie de l'utilisateur de la parole. Alors en effet, là, les caractéristiques sont totalement inversées. Athènes pose, vers le VIe siècle, le droit pour quiconque de prendre la parole, pour quiconque. Et non seulement ça, mais le droit pour quiconque d'objecter, objecter par la parole à cette parole. Et donc on voit que cette parole ne repose plus sur des interdits, mais sur une recherche de partage et de cohérence. Et donc si j'avais à reprendre la formule des quatre libertés informatiques que j'ai rappelées tout à l'heure, je dirais que à ce moment-là, on a la liberté d'exécuter, de prononcer une parole, on a la liberté de l'étudier, voir si ce que l'autre a dit est pertinent. On a la liberté de l'améliorer, essayer par sa parole d'amener l'autre à aller plus loin, ou de préciser sa parole, ou de résoudre une confusion. Et enfin, la liberté de distribuer des paroles modifiées ou non modifiées. Bon, c'est là que des textes, des transcriptions apparaissent, et c'est là que se mettent à circuler des propositions philosophiques, politiques, mathématiques. Alors j'insiste sur le terme d'autonomie, c'est un mot qui veut dire décider par soi-même, être capable de donner à soi-même une orientation. Il est très intéressant de définir la liberté comme autonomie à partir de ce que l'utilisateur décide pour lui-même. En effet, si on définit la liberté seulement comme une absence de contraintes extérieures, on peut la confondre avec le libéralisme. Par exemple, quand on parle seulement de logiciel ouvert ou d'open source, on cherche surtout à être puissant, à produire des effets, à produire des développements. Par exemple, un certain Éric Raymond, dans La cathédrale et le bazar, montre couvrir le code source d'un logiciel, c'est favoriser les rapports de bugs, c'est susciter des prolongements, c'est permettre une réactivité pour écrire de nouvelles lignes de code, mais tout cela sans du tout mettre l'accent sur des principes de respect des personnes et de respect des choix des personnes. C'est pourquoi il est toujours très utile de bien faire la différence entre le logiciel libre au sens du free software, qui fait de la liberté de l'être humain l'essentiel, et d'autre part, ce qu'on appelle l'open source, qui s'inscrit dans la lignée du libéralisme économique, comme chez Mandeville ou chez Adam Smith. Alors, je vais dire en quoi, effectivement, il y a une forte analogie entre ce laisser-faire de l'open source qui se préoccupe très très peu d'autonomie, mais simplement d'efficacité. Par exemple, chez un certain Mandeville, on trouve ce qu'on appelle la fable des abeilles. Et l'idée, c'est que plus les abeilles sont avides de miel, moins elles se soumettent à des tabous, moins elles se soumettent à des interdits, plus elles en veulent, plus elles se déchaînent, et plus la ruche est prospère. Alors Adam Smith, considéré comme le père du libéralisme économique, reprend ceci dans La richesse des nations. Il dit que plus les individus ont envie de s'enrichir, sans aucun scrupule ni aucune limite, ni aucun reste pour la liberté des autres, ni le bien-être des autres, plus ils développent leurs produits dans une course au bénéfice dont on a l'impression qu'elle est sans entrave, qu'elle est libre, mais qui en réalité est simplement déréglée, sans régulation d'aucune sorte. Et alors cette liberté-là, qui est celle du libéralisme, est une anarchie avide, un mouvement d'expansion qui peut bien sûr écraser les plus faibles dans une sorte de frénésie, bon, celle qu'on voit par exemple chez les GAFAM qui vont pouvoir racheter pour une bouchée de pain tels collaborateurs qui vont passer donc sous leurs ordres. L'April, je pense que tu seras d'accord avec moi Fred, ne s'inscrit pas du tout dans cette course qui veut écraser sans écart pour les utilisateurs. Le logiciel libre que l'April veut défendre et promouvoir est un logiciel libre permettant une accession de tous à des fonctions logicielles par le partage, la vigilance d'une communauté, l'éducation. L'informatique ne doit être ni une activité qui confisque, ni une course à l'avoir, mais une composante de l'être de ceux qui autonoment le reste.
Mais écoute, merci Véronique pour cette belle chronique avec laquelle je ne peux être évidemment qu'en accord, notamment ton ton rappel sur l'importance de logiciels libres versus open source, alors que pas mal de gens essaient de faire croire que c'est la même chose ou peu ou prou, et un rappel sur l'importance de l'autonomie, qui doit d'ailleurs enseigner, enfin qui devrait être enseigné à l'école. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas actuellement. Je ne sais pas ce que l'enseignante que tu es en pense.
Récemment, la CNIL a adressé un rappel disant à quel point il était dangereux d'utiliser par exemple des outils vidéo comme Zoom, comme Teams dans les écoles et les universités. Hein. Là, c'est très très récent et je pense qu'il faut nous réjouir de cette alerte qui a été donnée par la CNIL, qui ici est parfaitement dans son rôle.
Tout à fait, c'est une décision importante et nous espérons que notamment l'enseignement supérieur et puis tout le reste de l'éducation nationale saura en tenir compte. Donc c'était la chronique partagée bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April, chronique qui portait sur le thème de logiciels libres et autonomie. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle fin de journée à toi, Fred.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter une chronique enregistrée il y a quelques jours, la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet sous le thème logiciel libre et autonomie. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans le cadre de l'édition 2021 du Festival de cinéma d'Attaque Images Mouvementées, une projection débat du film La bataille du libre de Philippe Borel aura lieu ce mardi 5 octobre à partir de 20h, tout à l'heure, au cinéma Les Cinq Comartins à Paris dans le 9e arrondissement. Après la projection du film, Véronique Bonnet, présidente de l'April, que nous venons d'écouter, participera au débat sous le thème « Intérêt privé contre bien commun ». Les autres personnes participantes sont Paul Ariès, politologue, sociologue, directeur de l'Observatoire international de la gratuité, Benjamin Coria, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et membre du CA des économistes atterrés, et une personne de Framasoft. Une nouvelle réunion du groupe de travail sensibilisation aura lieu jeudi 7 octobre de 17h30 à 19h30 en visioconférence. J'animerai moi-même la réunion. Nous continuerons l'élaboration du projet La boussole du libre, un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de leur informatique à l'aide d'une sélection de liens web. La cible de la boussole du libre et des projets du groupe Sensibilisation Générale est le grand public, des personnes qui connaissent très peu, voire du tout, le logiciel libre et ses enjeux. À l'occasion de la réunion de jeudi prochain, nous allons notamment sélectionner les meilleurs liens web pour le thème « M'initier au logiciel et services libres ». Les réunions sensibilisation sont toujours annoncées sur april.org et sur l'agendadulibre.org. Elles sont ouvertes à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, n'hésitez pas donc à participer. Toujours le jeudi 7 octobre à partir de 20h30 aura lieu une nouvelle soirée de conversation autour du libre à l'initiative de l'association Parinux. Le thème de cette soirée sera Noomworks, une calculatrice graphique collaborative ouverte pour le lycée. Noomworks est la première calculatrice adaptée au lycée dont le code source est ouvert et pour laquelle la communauté participe à l'amélioration du design et de l'ergonomie. On parlera notamment des avantages d'une telle calculatrice pour l'enseignement des mathématiques auprès d'élèves porteurs de handicap. Pour les autres événements en lien avec le libre, je vous invite toujours, comme toujours, à consulter l'agenda du libre, agendadulibre.org. Donc notre émission se termine, vous entendez le générique de fin. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Vincent Calame, Bernadette d'Accès DV Linux, Harmonie Altinier, Véronique Bonnet, aux manettes de la régie aujourd'hui Étienne. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langa, bénévole à l'April, Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Ce sera disponible dans quelques jours. Vous retrouverez sur notre site web april.org, april.org, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radiocausecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 12 octobre 2021 à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 12 octobre et d'ici là, portez-vous bien.